Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h dans le Haïré, cercle de Douanzan, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. 24 milliards de francs CFA seront mobilisés cette année selon les autorités maliennes afin de secourir plus de 6 millions de personnes en insécurité alimentaire dans le pays. L'information a été donnée hier au cours de la 18e session du Conseil national de la sécurité alimentaire. À Mondoro et région de Douanzan, des hommes lourdement armés sur des motos sèment la terreur dans la localité depuis la semaine dernière. Plusieurs Nigériens de la commune de Banibangou se réfugient à Menaka depuis plusieurs semaines. Ces personnes ont fui l'insécurité et les menaces terroristes dans la zone dite des trois frontières. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Je vous le disais dans les titres, près de 24 milliards de nos francs seront mobilisés cette année par l'État pour secourir des personnes en insécurité alimentaire. L'information a été donnée lundi à Bamako lors de la 18e session du Conseil national de la sécurité alimentaire. Pour le chef du gouvernement, l'État entreprendra également une opération spéciale de soutien au marché céréalier à travers la mise sur le marché de 20 000 tonnes de riz vendu à prix modéré par l'OPAM. Le point avec Mahaman Babakunta.
Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, plus d'un million de personnes sont dans les besoins d'être assistées sur le plan alimentaire et nutritionnel. Face à cette situation, Redouane Ag Mohamed Ali affirme que le plan national de réponse va mobiliser 64 000 tonnes de céréales.
Concrètement, ce qui va se passer, c'est des opérations de distribution alimentaire gratuite qui vont s'adresser à 7 141 000 personnes. Il y aura aussi des activités de renforcement de la résilience de ces personnes-là pour qu'elles ne retombent pas dans l'insécurité alimentaire l'année prochaine, etc.
Les zones concernées par cette situation sont particulièrement les régions du nord et du centre. Pour le gouverneur de la région de Taoudeni, l'État doit mener des actions de changement en agissant plus sur les causes de l'insécurité alimentaire. Général de brigade Mohamed Old Maïdou, gouverneur de la région de Taoudeni.
La région de Taoudeni, c'est une région qui n'a pas comme les autres régions. C'est des populations, les plus part, ils sont réfugiés en Mauritanie, en Algérie et ailleurs. Donc, si on ne fait pas les efforts pour qu'ils puissent retourner, ça va être vraiment un choc pour la région.
Au cours de cette session, le ministre commissaire a également rappelé que plus de 4 millions d'autres personnes ont besoin d'être soutenues pour la restauration de leur capital productif à partir d'activités d'appui, notamment dans le domaine de l'agriculture.
Et rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Direction le centre du pays où des hommes armés campent toujours à Mondoro, localité située dans le cercle de Douanzan. Selon ses habitants, depuis dimanche, des hommes lourdement armés sur des motos ont fait irruption dans la localité avec de nouvelles menaces. Entre peur et désespoir, les populations demandent de l'aide aux autorités. Plus de détails avec Fatih Yattara.
Avec un visage inquiet et désespéré, Oumar Ngoïba est un jeune leader de Mondoro. Il a quitté la localité il y a quelques jours. Il affirme que les djihadistes qui assiègent sa commune continuent de brandir des menaces.
Ils ont sollicité qu'on aille en accord, comme on le dit, les accords locaux. Ils ont exigé également aux villageois de chasser l'armée du village. Mais les villageois ont dit, mais c'est l'État, nous ne pouvons pas chercher l'armée. Ils ont dit, bon, si vous ne pouvez pas adhérer à nos conditions, vous allez être exposés à des attaques sans précédent. C'est ceux qui se préparent et ils voient tous ceux qui sortent ou tous ceux qui rentrent du village, même un simple coq.
C'est la piscose à Mondoro, s'alarme Soumeila Morba, un autre responsable de la jeunesse de la localité. Après avoir été témoin d'un acte de persécution, il redoute une nouvelle vague d'enlèvement et de carnage à Mondoro.
Le quotidien des habitants de Mondoro, c'est la peur. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, nous serons ravagés par les terroristes. Moi, mon propre père a été enlevé en septembre 2019 avec mon jeune frère, avec mon tonton, avec deux de mes cousins, 5 personnes. Jusqu'à là où je te parle, on n'a pas les nouvelles.
Rappelons que la commune de Mondoro fait partie des localités sous embargo terroriste depuis 2019.
Un sujet signé Fatih Yattara. S'agissant toujours de l'insécurité, les travaux de la première session ordinaire de la sixième mandature du Conseil économique, social et culturel ont pris fin lundi à Koulouba. Pendant 2 semaines, les membres de l'institution ont réfléchi sur les réformes sécuritaires, politiques et institutionnelles. Plusieurs recommandations ont été soumises au gouvernement par les participants. Les détails avec Oumar Waïgalo.
Les résolutions formulées par les participants sont entre autres le renforcement des confiances entre l'armée et la population et la révision de la loi électorale. Abdoulaye Sega Diabaté, membre du Conseil économique, social et culturel et rapporteur.
Procéder au toilettage systématique du fichier électoral. Associer les médias aux opérations de dépouillement en public et en toute transparence. Adopter une nouvelle carte militaire et sécuritaire. Adopter des mesures nécessaires pour renforcer les liens de confiance entre le peuple et son armée, une commune, un commissariat de sécurité publique.
Le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katilé, affirme que ces réformes pourront contribuer à faciliter le retour de la stabilité au Mali.
Les difficultés que nous sommes en train de vivre dans le cadre vraiment de l'insécurité, les réformes politiques proposées qui, pour nous, dans l'avenir, ça va permettre vraiment de stabiliser encore davantage notre pays.
Les participants ont demandé au président de l'institution de faire un plaidoyer auprès des autorités pour la mise en œuvre de ces recommandations.
Pendant ce temps, les conséquences de l'insécurité se font de plus en plus sentir dans la zone dite des trois frontières. Entre le Mali et le Niger, par exemple, plusieurs Nigériens de la commune de Bani Bango ont été obligés de se réfugier au Mali voisin. Depuis 2018, ces ménages vivent dans la ville de Menaka. Une base de Barkhane et Takuba doit quitter Menaka, comme annoncé par les autorités françaises et leurs partenaires européens. Comment ce départ est-il perçu chez nos frères nigériens ? Réponse dans ce reportage de notre correspondant Mohamed Ag Issafi-Itan.
Comme les Maliens, les réfugiés nigériens suivent l'actualité relative à la présence des forces internationales. Ils sont donc au courant des décisions prises ces derniers temps et les mesures d'accompagnement préconisées par les autorités maliennes. Mahamadou Halidou est le secrétaire général de ces réfugiés.
C'est le gouvernement malien qui a pris son responsabilité, qui a pris son engagement. Même dans les radios, on écoute que la population, tous les Maliens, il faut qu'ils restent tranquilles. Le gouvernement malien est en train de faire toutes mesures pour que le pays soit tranquille, quoi, stable.
Le départ des forces Barkhane et Takuba n'inquiète pas les réfugiés nigériens de Menaka. Même le redéploiement de ces forces annoncées dans leur pays ne semble pas créer un enthousiasme chez eux. Ils sont même confiants pour l'avenir.
Nous, en tant que réfugiés ici, nous sommes des Maliens, puisque nous sommes dans le pays du Mali. Donc, ça ne nous fait pas inquiète, puisque c'est le gouvernement malien qui a pris l'engagement. Assimi Goïta va assurer la sécurité dans toute la bande du Mali.
Selon les chefs de ces camps, il y a près d'une année, ils n'ont reçu aucune aide. Ils sont majoritairement logés sous des hangars en paille et quelques tentes offertes par l'HCR. Mohamed Ag Issafetan, Menaka, Studio Tamani.
Sur un tout autre sujet à présent, la révision de la charte de la transition a été approuvée hier lundi à l'unanimité. Dr Youssouf Zed Koulibaly, membre du Conseil national de la transition CNT, affirme que cette révision de la charte de la transition est une demande formulée par des Maliens lors des assises nationales de la refondation. Selon lui, cette modification permet non seulement de corriger le vide juridique qui s'installe après le 27 février, mais aussi éviter les vacances de pouvoir. Il est au micro de Moussa Mali Sissoko.
La charte était arrivée à un niveau, il fallait apporter des petites modifications par rapport à la suppression du poste du vice-président, par rapport à l'ouverture du CNT, l'ouverture aussi du gouvernement, conformément aux recommandations des ANR. Et c'est ce que nous avons corrigé sous forme d'amendements. Les amendements ont été vraiment votés à l'unanimité et c'est une première d'ailleurs. Sur 121 membres, 120 ont donné leur avis favorable. Donc, en dehors de cela, le texte n'a pas fait l'objet d'une modification au fond. Vous savez, la durée de la transition fait toujours l'objet de discussions, de négociations entre le Mali, le gouvernement et les partenaires, conformément aux recommandations des assises. Les délais de 6 à 5 ans ont été recommandés.
C'était là la réaction de Youssouf Zed Koulibaly, membre du CNT, au micro de notre reporter Moussa Mali Sissoko.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Commençons le tour d'horizon de l'actualité régionale par le sud du pays où plus de 200 personnes ont bénéficié du dépistage du diabète ce week-end à Kuchala. Selon les organisateurs, la campagne vise à prévenir et à lutter contre cette maladie. Elle a permis de recenser des cas positifs et de les orienter vers des structures sanitaires les plus proches. Elle a été organisée par le centre de santé de référence de Kuchala en collaboration avec l'ONG Santé Diabète. De Kuchala, rendons-nous au nord du pays où à Almoustrat, région de Gao, une équipe mobile composée d'un médecin, d'une infirmière et d'un vétérinaire a été mise en place cette semaine. L'installation de cette équipe entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet santé de l'ONG ADESA dans le cercle d'Almoustrat. Elle aura pour mission de veiller à la santé des populations et des animaux. L'équipe a été accueillie avec joie par la population. Terminons par Kadjolo où le village de Kambo a abrité ce week-end la première édition du festival du lac Kambo appelé Zalié. L'objectif de ce festival est d'inscrire ce lac dans le patrimoine culturel du cercle en vue de rehausser son niveau de participation au développement du village. Excusez-moi, les organisateurs indiquent que les activités menées autour de ce lac ont permis de doter le village d'un système d'adduction d'eau potable et d'un jardin maraîcher équipé d'un château pour les femmes. Ce festival est organisé par la Missa Bamba, dit Kadjolo Nabi, à travers son association Yeredon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadou Ouattara a assuré la mise en onde. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamu au 37 321. Ne décrochez pas car l'info continue. À Diboli, dans la région de Kayi, ville frontalière entre le Mali et le Sénégal, des centaines de camions et gros porteurs sont stationnés tout au long de la route principale et même dans les rues. Bloqués sur place, ils attendent la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Des sanctions qui impactent aussi le quotidien des populations locales. Elles achètent aujourd'hui le kilogramme du sucre entre 600 et 750 francs CFA. Reportage de notre envoyé spécial Arkia Touré de retour de Diboli.
C'est l'ambiance à Diboli parmi les centaines de camions stationnés dans la ville. Certains transportent des aliments. Ces derniers tentent de se frayer un chemin. Ce blocage a commencé depuis la fermeture des frontières, explique Gaussou Diarra, secrétaire à la mairie de Diboli.
Ces camions-là, maintenant vu le travail de la douane, ces camions-là sont obligés d'arrêter parce qu'il n'y a pas de parking jusqu'à ce que la douane termine son travail.
Les transporteurs bloqués dans la ville attendent ainsi la levée des sanctions de la CEDEAO depuis plus d'un mois. Ils s'impatientent.
Certains sont ici depuis plus d'un mois. Si tu dois y rester sans argent ni nourriture, c'est un vrai calvaire.
Il faut souligner que le passage des camions qui transportent les denrées de première nécessité est normalement autorisé. Certains camionneurs ont donc décidé de se réorganiser.
Nous étions à Dakar. Par la grâce, nous sommes rentrés aujourd'hui. Je suis resté là-bas tout ce temps, car il me fallait des produits alimentaires pour charger mon véhicule. Je transporte des boissons, sinon j'ai eu d'autres propositions. Mais je ne pouvais pas venir avec ces produits-là, car ils sont interdits.
Pourtant, quand on quitte la route pour entrer en ville, les habitants de Diboli dénoncent l'augmentation des prix des denrées de première nécessité.
Le kilo du sucre est monté en flèche. C'est vendu actuellement à 800 francs à Diboli. Le sac est cédé à plus de 30 000 francs. Le sac de riz est à 17 000 francs. Quant à l'huile, le bidon est cédé à 23 000 francs. Un kilo d'oignon est vendu à 600 francs.
L'être humain, c'est la nourriture. Sans elle, pas de vie.
Ils doivent penser à voir la situation avec les commerçants. Il a été dit que les produits de première nécessité et le carburant ne sont pas concernés par l'embargo. Ce qui est vrai, car ici, à la frontière, tous les jours, on les voit rentrer.
La frontière entre le Mali et le Sénégal est fermée, mais certains témoignent que les compagnies de transport passent timidement. Mais le transport coûte encore plus cher pour les clients.
C'est facile pour nous d'aller à Dakar, mais ici, on fatigue plus les étrangers, ceux qui viennent de Bamako. Du côté du Mali, il n'y a pas de problème. Mais une fois sur le terrain sénégalais, ils te disent que les frontières sont fermées. Alors, on te fait payer plus de 15 000 francs CFA, ce qui n'a rien à voir avec ton transport.
À partir de Diboli, c'est un pont qui sépare le Mali et le Sénégal pour rejoindre Kidira, une ville sénégalaise. Les échanges continuent entre les deux villes malgré les sanctions de la CEDEAO. Cela reste possible grâce à l'engagement des autorités de Kidira et de Diboli, expliquent des habitants.